Radio Potager, l'émission de celles et ceux qui s'engagent pour le vivant. Terre et Humanisme s'invitent sur Fréquence 7 pour parler d'écologie, d'agriculture, d'alimentation et de solutions aujourd'hui pour inspirer le monde de demain. Embarquez avec nous dans un voyage au cœur des initiatives engagées pour le vivant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Karine Nunes qui est bien engagée sur le territoire ardéchois sur les thématiques de l'alimentation et de l'agriculture. Salut!
Salut, bonjour Léa, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots sur tes différentes casquettes et rapidement ce que tu fais sur le territoire ?
Oui, pas de problème. Moi je m'appelle Karine Nunes, je suis arrivée au territoire en juillet 2022 et je suis en charge des questions de transition agricole et alimentaire au parc naturel des Monts d'Ardèche. Cela par une étude sociologique, donc à travers une thèse. Donc je suis en thèse, ce qu'on appelle une thèse de CIFRE, où je suis embauchée, je suis salariée dans une structure, donc en l'occurrence le PNR des Monts d'Ardèche, pour faire ma thèse. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de plusieurs casquettes, parce que j'ai une casquette chercheuse liée à l'école doctorale et une casquette liée au parc. Et juste un petit peu sur moi, donc moi je suis brésilienne, ça fait à peu près, ça va faire 6 ans que je suis en France. J'ai fait des études d'ingénieur agronome, avec une spécialisation géopolitique de l'agriculture et agriculture de proximité, donc plus liée aux questions politiques liées à l'alimentation et à l'agriculture. Et ensuite j'ai travaillé au CIRAD à Montpellier sur la recherche et l'impact de la recherche au Brésil et en Afrique de l'Ouest. Et depuis 2022, donc en thèse en sociologie au parc.
Sacré parcours. Ça te vient d'où cet intérêt pour ces thématiques-là?
Alors c'est intéressant parce que j'ai pu me pencher sur la question, parce qu'avant j'avais souvent cette question puisque je suis pas fille d'agriculteur, donc j'avais souvent cette question et je savais pas comment y répondre, et finalement j'ai trouvé un outil qui est pas mal et j'invite les gens à l'essayer. Ça s'appelle Rivière de la vie, où on essaye juste de dessiner une rivière et de marquer des petits points de virage où on apprend des choses et où certaines thématiques et certaines choses viennent s'ajouter à notre réflexion. Donc j'ai pu faire ça, un exercice dans le cadre d'un module que j'ai suivi à l'Université du Vermont aux États-Unis, et j'ai pu observer vraiment, au début c'était un intérêt lié à une ferme, une ancienne exploitation agricole de mes grands-parents, qui était plus, quand j'étais petite, elle était plus en activité, mais on venait, c'était un lieu de loisirs. Et il nous racontait des histoires de l'époque où c'était productif. Et ensuite, donc, j'ai décidé de faire un lycée, de partir en lycée agricole, spécialisation agroécologie. Donc j'ai commencé à entendre parler d'agroécologie alors que j'avais 14 ans. Donc ça, c'était très chouette. Ensuite, j'ai décidé de suivre un parcours ingénieur agronome. Et au fur et à mesure, il y a certaines choses qui se rajoutent. Donc au début, moi, comment j'ai dessiné cette rivière de la vie, c'est l'entrée, c'était l'agriculture familiale, donc par le vécu personnel. Ensuite, c'est l'agroécologie qui s'invite. Quand j'étais en école d'ingénieur au Brésil, c'est en travaillant avec le mouvement des paysans sans terre. Donc c'est la question du foncier et de la concentration foncière au Brésil. Et ensuite, avec la thèse, l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est un peu la dernière... La dernière thématique ajoutée à cette rivière.
Et on va en reparler un peu par la suite. Du coup, tes différentes casquettes, donc là, tu en as touché deux mots. Si tu devais nous décrire un peu plus concrètement ce que sont tes missions sur le territoire ardéchois, avec le parc, mais aussi avec d'autres acteurs avec lesquels tu es impliqué.
Moi, je suis... L'intitulé de mon poste, c'est chargée d'études. Donc vraiment, c'est en tant que chercheuse junior sur la question de la transition agri-alimentaire. Donc au départ, on parlait d'alimentaire, mais on a voulu justement ajouter l'agri pour pas l'oublier. Et donc au parc, je suis chargée d'études, mais en recherche-action. Donc ça veut dire que je fais pas que de l'observation. Donc je suis doctorante à l'école d'hautes études en sciences sociales à l'antenne à Marseille et attachée à l'unité éco-développement de l'INRAE à Avignon. Donc il y a plein de...
C'est complexe tout ça.
C'est très complexe et en plus j'ai un co-directeur de thèse qui est aux États-Unis, donc vraiment c'est très complexe. Quand j'essaie de mettre tous les logos, ça fait vraiment beaucoup.
Ça fait du monde autour de la table.
Ça fait beaucoup de monde, mais c'est chouette. Ça veut dire que c'est un projet collectif.
Et donc que tu as la capacité à aussi réunir plein de monde potentiellement.
Exactement. Donc sur le territoire, c'est surtout des actions qui vont être plus de l'ordre de l'animation, de réseau, de l'animation. On va parler peut-être tout à l'heure du Conseil local de l'alimentation. Donc ça, c'est une grande partie. L'organisation d'un forum annuel sur les questions agricoles et alimentaires sur le territoire. Ensuite, tout ce qui est groupe de travail sur plusieurs thématiques, les thématiques du changement de pratique, de la justice agroalimentaire, un réseau avec tous les animateurs des projets alimentaires territoriaux de l'Ardèche. Donc il y a pas mal d'actions qui sont liées à l'animation et la coordination de réseau. Et après, ce qui est très chouette, j'ai une thèse où j'ai 6 études de cas. Et en fait, chaque étude de cas m'invite à prendre un rôle et à jouer un rôle. Donc j'ai une étude de cas où c'est sur un dispositif d'aide alimentaire, où je suis invitée à faire vraiment partie de l'équipe et à être aussi dans la rédaction de documents et dans l'organisation de journées, d'ateliers, etc. Il y en a d'autres où je suis plus éloignée, je suis plus distancée, je fais plus de l'observation participante, mais où je suis pas dans les manettes de l'action. Donc voilà, c'est chaque étude de cas, et c'est à nous aussi, en tant que chercheurs, de respecter la place qui nous est donnée, et d'en faire quelque chose, et des fois, il faut négocier un petit peu plus, il faut demander un peu plus de place, ou il faut savoir aussi prendre du recul, et voilà, sortir un peu.
Faire un pas de côté.
C'est ça, exactement.
Et donc, tu as parlé brièvement du Conseil local de l'alimentation, le CLA. Alors, en toute transparence, du coup, il y a un lien entre nous et c'est pour ça aussi que je t'invite aujourd'hui. Donc, moi, je suis aussi membre du CLA en tant que citoyenne, mais aussi parce que je travaille à Terre Humanisme. Et donc, nous, on est aussi sur l'agroécologie et ces thématiques-là. Est-ce que tu peux nous raconter le CLA, le Conseil local de l'alimentation ?
Avec plaisir. Donc, le CLA, c'est une aventure qui commence même avant mon arrivée. Donc, c'est un travail qui a commencé avec notamment le travail de recherche de Claire Lamine, qui est ma directrice de thèse et qui est très, très, très active sur le territoire. Un peu, on recherche action aussi, donc du côté de l'action et du côté de la recherche, et qui travaille sur l'Ardèche depuis la fin des années 2000, et qui voulait justement créer un grand projet d'arène de débat. Donc c'est pas une arène où on peut prendre des décisions, parce qu'effectivement on a des élus autour de la table, mais l'idée c'est ne pas de prendre des décisions à l'échelle des communautés de communes, du département, mais c'est de se concerter, et c'est de discuter ensemble, c'est d'apporter plusieurs visions différentes à partir des vécus, à partir des métiers des uns et des autres sur les questions agricoles et alimentaires. Donc elle a eu un financement en 2019 pour lancer cette aventure. Donc c'était vraiment une expérimentation sur 2 ans, 2019-2021, avec 25 personnes, avec des petits groupes de travail où ils ont pu travailler. C'était un petit groupe, mais ils ont fait pas mal de choses. Donc ils ont décortiqué l'histoire du système agréalimentaire ardéchois, surtout du sud Ardèche, depuis le 18e. Donc c'est quand même un travail assez conséquent. Et puis avec plus de détails à partir de 1960. Donc ils ont fait tout ce travail qui a amorcé en fait mon arrivée en 2022. Et l'idée avec mon arrivée, c'était de relancer ce qui s'appelait à l'époque le projet L'Assiette et le Territoire, et de créer carrément un conseil local de l'alimentation. Donc un conseil local dont le même objectif était de mettre plusieurs personnes avec plusieurs casquettes différentes autour de la table, dont les habitants aussi, enfin des personnes mandatées ou concernés par l'alimentation, parce qu'on mange tous, on est tous mangeurs, et de mettre ces personnes autour de la table et discuter de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en tant que citoyen et en tant que professionnel du système agréalimentaire. Et là, la dernière chose qu'on a faite, qui était vraiment une aventure assez, assez intéressante, c'est qu'on a analysé de façon partagée et collective tous les PAT, tous les projets alimentaires territoriaux, donc qui sont portés par les communautés de communes en Ardèche. Et l'idée, c'était pas d'évaluer ces projets alimentaires, mais justement de dire, il y a des chouettes choses qui sont faites. Il faut vraiment qu'on se, voilà, qu'on les amplifie, qu'on les essaime. Et il y a aussi d'autres choses qu'on pourrait, là, on pourrait aller un peu plus loin. Donc voilà, donc il y a une analyse partagée, un document de 8 pages assez conséquent qui est sorti de cette, voilà, de ce débat de plusieurs visions au sein du Conseil local de l'alimentation.
Et donc ce CLA, il a aussi pour but d'accompagner une vraie transition agri-alimentaire, comme tu disais au début.
Exactement.
Et donc on va voir aussi dans une deuxième partie à quoi ça peut répondre comme enjeu de territoire. Mais je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un artiste que tu as choisi, si tu veux nous présenter.
Oui, c'est un artiste brésilien, il s'appelle Chico César. La chanson, c'est une chanson un peu... C'est une chanson qui est très dure parce que ça raconte l'histoire de l'agrobusiness au Brésil et tout ce que ça fait au niveau sociétal, social, économique, environnemental. Et c'est vraiment une... Il dénonce ce qui est fait et c'est très émouvant.
On écoute.
Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz, a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico. Povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia mesmo tu ser rainha do desmatamento. Já o que eu acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento.
On est toujours dans Radio Potager sur Fréquence 7 avec Karine Nunes, doctorante et chargée d'études pour le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche sur les questions d'agriculture et d'alimentation. On a un petit peu coupé la chanson parce qu'elle est très très longue.
C'est 11 minutes.
Mais en tout cas, on sent l'émotion quand même, même c'est si on ne comprend pas tout ce qu'il dit. moi, je voulais te demander, en fait, tout simplement, pour toi, c'est quoi les enjeux du territoire ardéchois, enfin tout simplement, mais en fait c'est très complexe, mais quels sont les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire de l'Ardèche ?
Il y en a plein, et il y en a vraiment plein plein. Je peux commencer par la question du foncier. Donc la question du foncier, on s'est rendu compte, donc la SAFER a mené une étude, et où ils sont rendus compte, à l'échelle de toute la région, en fait, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de foncier agricole dans le cadre d'un phénomène qui s'appelle la consommation masquée du foncier. Donc c'est pas un foncier qui va partir à l'urbanisation, à l'artificialisation, mais c'est un foncier qui est agricole, donc des fois des corps de ferme avec 4, 5, 6 hectares, et qui vont partir chez des propriétaires privés pour des propriétaires privés qui vont pas faire de l'agriculture. Et donc cette terre-là va être une grande pelouse ou juste un petit fond de jardin pour ces personnes-là, alors que et souvent des maisons secondaires aussi, alors que surtout en maraîchage 4 hectares on peut faire pas mal de choses. C'est positif parce que c'est pas irréversible, parce que ces terres-là sont pas artificialisées, mais elles sortent de la surface agricole utilisée sur le territoire.
Est-ce que c'est lié au tourisme, ça, ou pas ?
C'est très lié au tourisme. Donc on voit vraiment en Sud-Ardèche des tensions très fortes liées au tourisme, et aussi des tensions surtout après Covid. Pendant et après Covid, cette envie d'avoir un petit pied-à-terre en zone rurale. Et sinon, il y a aussi la question des campings. Donc il y a certains endroits où on a un conflit d'usage du foncier, parce que c'est des terres qui sont en plaine, qui vont partir pour faire des campings, alors qu'on pourrait faire... c'est de la bonne terre agricole.
Après, donc sur le foncier agricole, oui, la transition agroécologique peut-être, le changement de pratique.
Donc pour le changement de pratique, faut penser à deux choses. La première, c'est la question de la vulnérabilité du territoire au changement climatique, déjà. Donc il y a cette question, on a mené une étude, on avait une stagiaire au parc il y a 2 ans qui a mené une étude, justement un diagnostic de vulnérabilité climatique sur le territoire des Monts d'Ardèche, et qui nous a montré des choses qui font un peu peur. Donc il y a des filières, par exemple la châtaigne va vraiment souffrir avec le changement climatique. Donc notamment par le fait que on va avoir une augmentation des températures, mais on va pas voir une augmentation de la pluviométrie. Donc c'est des arbres qui vont transpirer, qui vont évapotranspirer, mais qui vont pas réussir à récupérer cette eau qui est perdue au vu de la chaleur. Donc il y a aussi une surmortalité animale, des troupeaux, il y a des pertes, il y a la question de l'eau aussi, qui est de plus en plus difficile. Donc il y a ça, et après il y a un autre côté, c'est un peu le côté... Où c'est un peu plus optimiste, c'est qu'en Ardèche, on a pas mal de pratiques qui sont déjà quasi de fait adaptées et plus respectueuses de l'environnement que ce qu'on peut voir ailleurs. Déjà parce qu'on est dans un territoire de moyenne montagne, donc on n'a pas des grandes exploitations. Par exemple, la moyenne des exploitations agricoles en France est entre 60, 65 et 70 hectares, alors qu'en Ardèche, on est à 33. Donc on a de petites pas mécanisables où on a déjà su s'adapter à différents problèmes, et on a une surface agricole utile en bio qui est supérieure à la moyenne française, qui est de 14% en France et de 24% en Ardèche. Donc on voit déjà qu'il y a des choses qui sont faites au niveau de l'Ardèche.
On peut en être fier.
Oui.
Et après, il y a un autre volet dont tu n'as pas parlé, qui est l'alimentation, je pense. Vraiment le lien... Donc là, on était sur l'agriculture, bon, c'est lié.
Oui. sur l'alimentation, donc, ce qu'on a observé, donc, plutôt le groupe de recherche de Claire. Donc avant mon arrivée, Claire, elle a mené une étude sur, donc avec l'Assiette et le Territoire, justement, ce collectif au départ, sur comment on mange en Ardèche, qu'est-ce qu'on mange en Ardèche. Et elle entendait souvent sur le terrain, les gens qui disaient « on mange bien ici ». Et elle s'est penchée sur la question, elle a dit « mais où ?» Enfin, « on », c'est qui « on » Et ici, c'est quoi ici?
Et c'est quoi bien manger?
Et c'est quoi bien manger, exactement. Donc elle s'est aperçue qu'on a en Ardèche deux phénomènes parallèles, et des fois c'est les mêmes acteurs qui mènent les deux et qui sont présents dans les deux phénomènes. On a un phénomène, c'est vraiment la qualité, la question de la qualité qui prime. Donc on a pas mal de... Voilà, on a le fin gras du Mézin, c'est vraiment de la qualité qui est mise en avant. Châtaigne d'Ardèche, on a une AOP, la myrtille, voilà, on a des produits emblématiques, on peut dire. Et après, on a l'alimentation ordinaire aussi. On a de la production d'alimentation ordinaire. Donc, on est un peu tiraillé par ces deux, en lien avec l'alimentation, ces deux phénomènes. Et ce qu'on peut observer pour l'alimentation ordinaire, c'est que des fois, on se retrouve dans des territoires où on n'a pas de maraîcher. On n'a pas de maraîcher sur tout le bassin de vie. Il n'y a pas de maraîcher. Donc, l'alimentation locale, cette envie de manger local, elle n'est pas... Voilà. Il n'y a pas l'approvisionnement. Et puis après, il y a toute la question de la précarité aussi.
J'allais te demander.
Donc, la précarité, c'est un énorme volet dans ma thèse. Déjà, par une sensibilité personnelle, je pense. Mais aussi parce qu'il suffit de se pencher... quelques heures sur la question, on est vraiment... Ça fait peur. Et quand on voit que le droit à l'alimentation n'est pas assuré, n'est pas garanti, et que c'est des associations et des bénévoles qui se donnent à fond, alors que c'est une concurrence des associations aussi pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir s'approvisionner. Il y a une volonté de s'approvisionner en local, il y a plein de limites. Et on a une population, vraiment, on a 14,4% de la population ardéchoise qui est sous le seuil de pauvreté. Et où il y a des communautés de communes, on peut monter à 19%. Et il y a des gens dans le quotidien, et on les côtoie dans notre quotidien en Ardèche, il y a des gens qui font le choix en hiver entre manger 3 repas par jour et se chauffer.
Il faut en être conscient, quoi. Ouais.
Il faut en être conscient. Et il y a aussi un rôle à jouer moi, je pense qu'il faut en parler autour de nous, parce que ça devient un phénomène normal et invisible, où l'aide alimentaire qui était à l'origine une solution d'urgence devient juste une solution pérenne. Et on se base sur ça et on passe à autre chose.
Il y a déjà des structures qui s'activent sur ces sujets-là. Et est-ce que au sein de tes travaux, est-ce qu'il y a aussi des choses qui se passent avec le CLA et tout ça sur la précarité alimentaire ?
Il y a pas mal de choses. Ça, c'est vraiment... ça fait plaisir de voir le nombre de personnes qui sont mobilisées sur cette question en Ardèche. Donc, il y a le JASA, donc le réseau Justice Alimentaire Sud-Ardèche.
Dont TH fait partie.
TH fait partie, exactement. Mmh. Il y a des expérimentations inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation, pardon.
Bien sûr.
Un peu partout en Ardèche. Donc là, il y a la communauté d'agglo Privas Centre Ardèche qui va se lancer là-dedans. Il y a aussi, moi je suis beaucoup, parce que c'est une étude de cas dans le cadre de ma thèse, mais la communauté de communes Ardèche et sous ses volcans, qui a en régie directe, et j'ai pas trouvé ailleurs en France, l'aide alimentaire. Ils ont vraiment un service, dans leur service général, ils ont un service lié à l'aide alimentaire, avec un partenariat avec la Banque alimentaire à Valence. Et ils travaillent beaucoup sur... Enfin, on travaille ensemble sur les questions de droit à l'alimentation, de non-jugement, de non-stigmatisation, donc des formations et de la sensibilisation auprès des bénévoles aussi. Ça, c'est important. Et après, ils ont une vraie volonté de s'approvisionner plus en local et une alimentation saine et plus durable.
Donc il se passe plein de choses. Après, c'est comment peut-être comment réussir à vraiment faire bouger aussi les collectivités, que tout le monde suive dans le même sens, et grâce aux outils notamment que tu animes peut-être. Et moi, j'avais une question sur qui est derrière tout ça, qui finance tes travaux, parce que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre toujours.
Complètement. Donc j'ai plusieurs financeurs. J'avais un montage au début, quand je suis arrivée, il y avait un montage financier qui avait été fait avant que j'arrive. Donc on avait une partie de l'enveloppe qui venait de LEADER, donc un financement européen. Ensuite, une autre partie qui venait de la DRAF, donc la Direction régionale de l'alimentation, agriculture et forêt, qui est donc un service d'État décentralisé à l'échelle de la région. Et ça, c'était dans le cadre du programme France Relance. J'avais une troisième partie du financement qui était de l'Agence nationale de recherche et technologie. Donc, parce que je suis en CIFRE, j'ai une partie de l'enveloppe qui est payé par, donc par cette agence.
Et donc l'enjeu pour toi maintenant, c'est de continuer à trouver des financements pour pouvoir continuer ces travaux ?
Exactement, ouais. Exactement. Donc là, on a réussi, parce que j'avais des financements jusqu'à là, juin, on a réussi à avoir un peu plus de la part de la région pour finir l'année et un peu plus aussi d'un projet européen, enfin un projet international dans le cadre duquel j'ai pu partir aux États-Unis, au Brésil et en Italie en mobilité, en tout pendant 6 mois. Donc ça a pas mal nourri aussi ma réflexion sur le territoire. Et donc ce projet-là a aussi financé une partie de mon poste. Et là, l'enjeu, effectivement, c'est pour l'année prochaine et pour les prochaines années, comment assurer, parce qu'effectivement, son financement, on peut pas faire grand-chose.
Ouais. Merci Karine, on arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu veux faire passer à l'antenne de Fréquence 7 ?
Bah oui, je vais profiter pour vous inviter tous, toutes et tous au 5e forum local de l'alimentation qui aura lieu le 3 octobre. Potentiellement au Pradel, on voulait décentraliser un peu et aller plus vers le sud, mais c'était un peu compliqué, donc on fera au Pradel à Mirabel cette année, et où on aura Bénédicte Bonzi, qui est une experte sur les questions justement de précarité alimentaire, qui va venir et qui était d'accord pour faire une conférence partagée avec moi. Donc je pourrais, au début, je vais présenter un peu mes résultats sur le territoire, et ensuite on va travailler, voilà, on va faire une présentation à deux voix, et pour moi c'est vraiment, j'ai lu toute sa thèse et je suis très contente de faire ça avec elle, je pense que ce sera super, et je vous invite tous.
Trop bien, bravo, en plus elle est ardéchoise.
Elle est ardéchoise, c'est vrai, du sud. Oui.
Merci Karine, merci, on te souhaite quand même beaucoup de succès pour la suite de tout ce que tu fais pour le territoire, et puis de pouvoir continuer à collaborer aussi.
Avec plaisir, merci.
Et puis, au sujet de Terre et Humanisme, c'est notre dernière émission de la saison. Et donc, on remercie vivement Fréquence 7, Sylvain, Sophie, toute l'équipe de nous accueillir. Et puis, tous les invités qu'on a reçus tout au long de cette année. Et on souhaite un bel été à tout le monde. Et on vous dit à bientôt. Salut.
Salut.